Le journal Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Les tractations commerciales entre Londres et Bruxelles semblaient sur le point de se terminer, mais pour l'instant, pas de fumée blanche. Des deux côtés, on reste plutôt silencieux. Le Royaume-Uni et l'Union européenne pourraient annoncer un accord post-Brexit. Nous y reviendrons avec notre correspondante à Bruxelles et notre invité Sylvain Kahn, enseignant-chercheur au Centre d'Histoire de Sciences Po.
Et dans ce journal, nous ferons également le point sur la situation à Douvres, en Angleterre, où les routiers sont testés au compte-gouttes. Il faut un test négatif au Covid-19 pour rentrer en France.
La situation épidémique est préoccupante dans l'est de la France. Nous l'avions évoqué mardi avec Jean Rotner, président de la région Grand Est. Cette fois, reportage à Pontarlier, en Bourgogne-Franche-Comté, à la frontière suisse.
Jean Castex assure qu'il comprend le désarroi, la colère et le découragement. Ce sont ces mots du monde de la culture. Les lieux culturels sont toujours fermés. Il s'adresse au secteur dans une lettre qu'on vous détaille.
Il y a deux mois, une attaque djihadiste au couteau faisait trois morts dans la basilique Notre-Dame de Nice. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a demandé au préfet de renforcer considérablement la surveillance des lieux de culte aujourd'hui et demain.
Une nouvelle salve de grâce a été dévoilée hier par la Maison Blanche. Dernière action de Donald Trump avant son départ. Le président sortant des États-Unis pardonne et ses actes sont encore une fois très critiqués. Explication à suivre de notre correspondant à New York.
Le groupe Alibaba est visé par une enquête en Chine pour suspicion de pratiques monopolistiques. Un coup de tonnerre dans le monde des affaires. Nous irons à Pékin à la fin de ce journal. Après une nuit de négociations, les discussions continuaient ce matin entre Londres et Bruxelles sur un potentiel accord commercial post-Brexit. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, devait s'entretenir en début de matinée avec le Premier ministre britannique, Boris Johnson, et sceller un compromis pour l'annoncer publiquement dans la foulée, mais pour l'instant rien. L'heure tourne, la date fatidique du 31 décembre approche. La période de transition après la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne touche à sa fin. Et comme à chaque fois qu'on pense être dans la dernière ligne droite dans ce dossier, les discussions se poursuivent. Bonjour Angélique Bouin.
Bonjour.
La pêche est toujours un point de blocage.
Ah oui, et d'ailleurs c'est ce qui fait que l'accord se fait attendre, hein. C'est en raison d'un désaccord de dernière minute sur ce dossier épineux, c'est ce qu'indique le ministre irlandais des Affaires étrangères, Simon Coveney. Il estime que cela ne devrait pas remettre en cause l'accord arraché hier à l'issue de 10 mois de négociations, chaotiques et difficiles, mais il y a encore quelques sujets de fond, temporise ce matin une source diplomatique. Il y a donc encore des négociations en cours à cette heure-ci. Un compromis général a bien été trouvé hier, mais on parle là d'un traité de plus de 1000 pages, 2000 avec les annexes. Il suffit d'un grain de sable pour que l'une ou l'autre des parties ait besoin de faire des vérifications. C'est ce qui se passe actuellement. Cela peut prendre du temps. Cela peut faire capoter l'accord. Même si on sent bien que la commission qui mène les négociations voudrait déposer ce cadeau ce soir au pied du sapin. Mais ce ne sera pas à n'importe quel prix. L'équipe de Michel Barnier l'a toujours dit. Même si le temps presse également, car le document doit ensuite être soumis aux représentants des États qui prendront quelques jours pour l'analyser. C'est une course contre la montre pour que tout soit juridiquement signé avant le 31 décembre à minuit. Mais l'on parle de 1000 milliards d'euros d'échanges commerciaux. Il faut être précis, rester patient et prudent.
Donc dans les grandes lignes, il y a quand même un accord qui semble tenir la route, notamment sur la concurrence déloyale.
Oui, car on parle beaucoup de la pêche, mais le cœur de cet accord commercial qui liera les deux parties, c'est de laisser aux entreprises britanniques un accès assez libre au marché européen, sans quotas, sans frais de douane. C'est une très belle offre, hein. En échange de quoi les Européens voulaient donc garder un large accès à leurs poissons, mais ils ont obtenu également des garanties solides sur le respect par les Britanniques de nos normes de production, avec un système de compensation si elles divergent dans le temps, selon plusieurs sources diplomatiques, et cela en termes de normes environnementales ou bien d'aide d'État. Pas question d'avoir un Singapour sur Tamise à quelques centaines de kilomètres de nos côtes. Sur ce sujet, l'accord est robuste, confie une source proche des négociations. Mais là aussi, il faudra voir sur pièce.
Angélique Bouin à Bruxelles. Pour en parler, notre invité ce midi est un enseignant-chercheur à Sciences Po où il enseigne les questions européennes. Bonjour Sylvain Kahn.
Bonjour.
À mes côtés pour cette interview, Stéphane Robert, chef du service politique de France Culture. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Alors Sylvain Kahn, est-ce qu'il est encore possible qu'on se retrouve sans accord avant la date du 1er janvier 2021 ?
Alors, formellement, oui, c'est possible, tout est possible, surtout avec le Brexit, c'est quand même le grand soap opéra des 4 dernières années. Toutefois, dans l'Union européenne, il existe quelque chose. Il y a beaucoup de créativité. Il existe notamment quelque chose de déjà bien éprouvé qui s'appelle, dans le passé, par exemple, arrêter les horloges. Hein, ce qui veut dire que, quand bien même on arrive à la date butoir, eh bien, on considère qu'on suspend le temps s'il manque, par exemple, 2 ou 3 jours ou même une semaine. Tout ça pour dire que, vu le travail qui a été fait depuis 10 mois par les négociateurs, et vu qu'on est vraiment à un doigt de l'accord, je serais très très surpris que tout d'un coup tout s'arrête et qu'on dise bon ben voilà, on n'a pas réussi à s'entendre et c'est terminé. Je n'y crois pas.
Question de Stéphane Robert.
Sylvain Kahn, pourquoi est-ce que les négociations sont si difficiles et pourquoi sur la pêche en particulier ?
Alors, la pêche, c'est un paradoxe, parce que économiquement, c'est un secteur qui est vraiment très marginal dans les échanges entre le Royaume-Uni et l'Union européenne d'une part, et dans les économies des deux blocs. Hein, voilà. Mais humainement, et on est bien en Europe, hein, c'est quelque chose qui est considéré, disons, on est très attaché aux pêcheurs, voilà, comme on est très attaché aux agriculteurs, hein, les pays européens sont des très très vieux pays, des sociétés très anciennes, où le rapport à la terre, à l'alimentation, à l'agriculture et on pourrait presque dire à la chasse, est très ancien, et par conséquent, toutes les questions qui touchent à l'agriculture, à l'alimentation, à la pêche, à la terre ont toujours une portée bien plus importante que leur poids économique, on pourrait dire. Voilà. Et puis, maintenant, si on regarde localement, il est clair que dans quelques pays et dans quelques régions de quelques pays, pensons à la Bretagne, pensons aux Hauts-de-France, pensons à la Belgique, pensons à l'Allemagne, aux Pays-Bas, eh bien, c'est un secteur vital. Prenons la Belgique, 80% des prises de poissons des marins-pêcheurs belges sont effectuées dans les eaux britanniques.
Et pourquoi est-ce que c'est si difficile alors ? Pourquoi est-ce que les négociations ont du mal à aboutir comme ça ?
Sylvain Kahn, invité de la rédaction.
Allô, allô ? Sylvain Kahn ?
Rencontrer un léger problème technique. Sylvain Kahn, enseignant chercheur à Sciences Po, où il enseigne les questions européennes. Nous étions en train d'évoquer le Brexit et le potentiel accord commercial post-Brexit. Les négociations ont eu lieu, elles ont lieu depuis des mois, elles ont eu lieu encore toute la nuit dernière, ce matin. Difficile à l'heure actuelle de trouver un accord. Il est encore possible d'en trouver un jusqu'au 31 décembre. C'est ce que nous disait Sylvain Kahn. Tout peut arriver jusqu'à la dernière minute. Sylvain Kahn, invité de la rédaction,
voilà,
qu'on a retrouvé.
Ouais, apparemment on a été coupé.
Ouais, pourquoi est-ce que les négociations sont si difficiles alors ? Pourquoi est-ce qu'elles ont autant de mal à aboutir ?
Bah, elles ont beaucoup de mal à aboutir parce que, disons que depuis 40 ans que le Royaume-Uni était dans l'Union européenne, les pêcheurs des pays continentaux avaient pris l'habitude d'effectuer des prises en quantité de plus en plus importante dans les eaux territoriales britanniques, qui faisaient partie des eaux de l'Union européenne, n'est-ce pas ? Et donc, aujourd'hui, que les Britanniques disent, bah, écoutez, on se retire, donc ces eaux territoriales, c'est chez nous, donc maintenant, chez nous, on fait ce qu'on veut, et si on a envie qu'il n'y ait plus personne d'autre que nous qui viennent pêcher chez nous, c'est notre droit. Et ben concrètement, si on fait ça du jour au lendemain, on met les pêcheurs de l'Allemagne, de la Belgique, des Pays-Bas et de la France en particulier en très très grande difficulté. Du coup, les gouvernements de ces 4 pays défendent bec et ongle les intérêts de cette catégorie professionnelle et de citoyens que sont leurs marins-pêcheurs.
Il ne reste que la pêche, tout le reste a été réglé.
Écoutez, d'après les informations qu'on a, sachant que évidemment, tant que l'accord n'est pas signé et étalé au grand jour de manière définitive, on n'a pas tous les détails, mais il semblerait que ce soit le cas et depuis plusieurs jours. C'est-à-dire que ce qui est très important pour les Britanniques, c'est de continuer à avoir un accès à ce grand marché intérieur qui est le marché européen, puisque c'est là que vont jusqu'à plus de 50% des exportations britanniques. Mais pour les Européens, ce qui est très important, c'est que les marchandises britanniques qui sont importées en Europe soient produites avec exactement les mêmes conditions. Il faut qu'il y ait une espèce, disons, d'égalité des conditions de production et de consommation. Et là-dessus, un accord a été trouvé, notamment parce que les Britanniques se sont mis d'accord avec les Européens pour dire que Quand les normes futures évolueront, ce qui est logique, hein, on prévoit aujourd'hui les choses à un instant T, mais on va créer des nouvelles normes en fonction des nouveaux produits, des nouveaux process, des nouvelles demandes de consommation dans les années qui viennent. Les Britanniques ont dit, ils ont obtenu que, à la différence de ce qui est fait pour les Norvégiens ou les Islandais, par exemple, eh bien, l'interprétation de cet accord soit dynamique et évolutive, et qu'en tant que de besoin, on se voit en permanence, on va dire, de manière continue, pour adapter l'accord aux futures conditions de production. Donc à partir de là, effectivement, il y a vraiment un accord qui permet zéro quota, zéro droit de douane, et puis l'économie numérique étant ce qu'elle est, la question des formalités, des déclarations des passages en douane vont se faire de manière numérique au point de départ des chargements et non plus à la frontière, ce qui veut dire que les choses vont rester, si tout se passe bien, fluides.
Et en quelques mots, la très délicate question de la frontière avec l'Irlande, ça aussi c'est réglé.
Alors ça a été réglé dès le mois de décembre dernier. Il n'y aura pas de rétablissement des contrôles matériels et de la matérialité de la frontière entre l'Irlande du Nord, qui fait partie du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et la République d'Irlande, qui est un État membre de l'Union européenne. La frontière douanière, là où se feraient les éventuels contrôles, sera en mer d'Irlande, d'accord ? Et puis, les Européens confient aux douaniers britanniques le soin de vérifier eux-mêmes si une marchandise qui sort du Pays de Galles ou de l'Angleterre et qui se dirige vers l'Irlande du Nord va s'arrêter en Irlande du Nord, auquel cas on est, on va dire, dans le marché intérieur du Royaume-Uni, ou bien si arrivée en Irlande du Nord, elle va continuer son chemin jusqu'en République d'Irlande, auquel cas elle rentre dans l'UE. Et ça, c'est confié par les douaniers européens aux douaniers britanniques, ce qui est un gage de grande confiance entre ces deux corporations douanières.
Merci Sylvain Kahn, invité de la rédaction. Votre interview sera disponible à la réécoute d'ici quelques minutes sur notre site franceculture.fr. Environ 6000 poids lourds sont toujours bloqués près de Douvres dans le sud-est de l'Angleterre malgré la mise en place de tests de dépistage. Un chaos provoqué par la découverte d'une variante très contagieuse du Covid et par la fermeture des frontières. Les routiers patientent. Déjà 4 nuits passées dans la cabine de leur véhicule avec l'espoir de rentrer à temps pour fêter Noël. La France exige un test négatif au Covid-19 pour pouvoir revenir sur son sol. Thibault était lui aussi coincé à Douvres. Il devrait être rentré pour Noël.
36 heures après mon arrivée, une heure après mon avancée du rond-point à la zone de test. Ça y est, j'ai fait mon check-in. Je suis dans la file d'attente. C'est un grand soulagement. Et très heureux d'aller passer Noël en famille, mais on laisse derrière nous une situation à Douvres tragique avec plus de 6000 personnes qui attendent et des tests qui vont être faits au compte-gouttes. En tout cas, un grand merci au centre de secours de Lille qui fait un super boulot et qui teste de façon très rapide et très organisée, et un bon courage à tous ceux qui restent encore à tester et ceux qui sont dans l'attente dans le froid, sans nourriture, sans eau, parce que rien n'est distribué par les services de sécurité britanniques. Donc c'est assez déplorable la gestion de la crise côté britannique. Mais en même temps, ce sont les Français qui nous ont mis dans cette situation. Donc même si on a un test, il faut le refaire. Et heureusement, les Français sont là pour le refaire. Mais malgré tout, c'est vraiment une situation déplorable. En tout cas, très heureux de pouvoir traverser et d'aller passer Noël en famille.
Témoignage de Thibault recueilli par Laure Van Rumbeek, envoyé spécial à Douvres. Sur les 1800 tests réalisés depuis hier soir, tous sont négatifs. Le système se débloque, assure le ministre délégué au transport. Jean-Baptiste Djebbari affirme avoir envoyé une trentaine de pompiers volontaires et 10 000 tests pour permettre au plus grand nombre de routiers français de passer Noël en famille. Deux bateaux sont aussi arrivés ce matin au port de Calais avec chacun 100 camions à bord. En France, la Haute Autorité de Santé a donné il y a un peu plus d'une heure son feu vert au vaccin de Pfizer et BioNTech contre le Covid-19. Il est autorisé pour les personnes de 16 ans et plus. La campagne de vaccination doit commencer dimanche dans plusieurs établissements pour personnes âgées. Les plus âgés, les plus fragiles, les personnes les plus exposées se verront administrer ce produit en priorité. En attendant, la prudence est de mise à Noël, comme tous les jours, pour éviter de contaminer son entourage. Par endroit, les chiffres sont particulièrement inquiétants. C'est le cas dans le Grand Est, mais aussi en Bourgogne, Franche-Comté, région la plus touchée de France. Les regards se tournent vers la frontière suisse pour expliquer une telle situation sanitaire. Le taux de positivité tourne autour des 9% quand il est à environ 6% au niveau national. D'après les chiffres de l'ARS régionale il y a une semaine, Bénédicte Robin s'est rendue pour France Culture près de Pontarlier.
Frane, 2000 habitants, à 20 km à l'ouest de Pontarlier, mais surtout à une trentaine de kilomètres de la Suisse. C'est une des gares prisées des quelques 20 000 à 30 000 frontaliers de la région, comme Alexandre.
J'ai 33 ans, je travaille en Suisse depuis 11 ans. Je travaille à domicile, chez les gens, chez les particuliers, je répare tout ce qui est électroménager. Dans le canton de Vaud, dans les environs de Lausanne.
Un canton où les bars et les restaurants sont toujours ouverts, mais le jeune père de famille évite d'y aller par prudence.
Mais du coup, j'emmène ma thermos de café, ma boîte entre guillemets. Voilà, je fais vraiment pour avoir en fait presque aucun achat. J'essaye d'être le moins en contact possible, ouais.
Est-ce que vous avez l'impression, vous vous dites, moi en tant que frontalier, je peux amener le Covid en France ?
Un peu. C'est sûr qu'on se pose des questions. Voilà, depuis le début, je me dis que les navigations de population comme ça, entre pays, même entre régions, ça aurait pu être limité beaucoup plus.
Car il y a clairement un effet de brassage franco-suisse, estime le maire de Frane.
Ce qu'on a constaté, c'est que la ruralité a pris de plein fouet.
Philippe Alpi, il est également vice-président du conseil départemental du Doubs.
Surtout l'arc jurassien, autant au printemps, on avait du mal à identifier des porteurs. Et là, manifestement, dans les familles, très fortement impacté sur notre territoire. Et sur toute la zone frontalière, plus particulièrement. Donc, contrairement au printemps, où on était plutôt épargné, c'est ça qui est manifeste.
Évidemment, il n'y a aucune preuve. Ce sont là des hypothèses très fortes, appuyées par la réalité des flux de population, travailleurs français, mais aussi consommateur suisse, souligne Jean-Michel Comte.
Chaque jour, même le week-end, et surtout en période de Noël, là, comme c'est actuellement.
Le directeur interdépartemental de la police aux frontières de Bourgogne-Franche-Comté.
On peut envisager quand même quelques milliers de personnes dans Pontarlier, et surtout dans les grandes surfaces, hein, parce que, bien sûr, c'est attractif pour la Suisse. Alors oui, effectivement, beaucoup de monde au quotidien qui pourrait continuer à passer chaque jour.
Mais sans qu'il ne constate d'effet particulier d'attractivité de la Suisse pour les Français qui voudraient aller au restaurant ou faire du ski.
Certains traversent la Suisse, on a des luxembourgeois, certains traversent pour aller ailleurs, certains vont en Suisse, mais c'est pas le plus gros du sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, non, le frontalier, on voit toujours autant de nos frontaliers qui continuent à passer chaque jour.
Cela dit, dès ce week-end, les contrôles vont tout de même être renforcés côté français pour les retours de vacances de ski. Les skieurs en provenance de Suisse devront montrer un test négatif de moins de 72 heures pour pouvoir rentrer.
Il faut vraiment que les gens jouent vraiment le franc jeu avec nous, quoi.
Car encore faudra-t-il pouvoir les repérer.
Au vu du contexte sanitaire, le Conseil d'État a validé hier la fermeture des théâtres et des cinémas. Nous comprenons votre désarroi, votre colère et votre découragement, a réagi le chef du gouvernement, s'adressant au monde de la culture sur Twitter, réaction qui a suivi celle du ministère de la Culture rue de Valois. Dans sa lettre, Jean Castex évoque une décision crève-cœur et met en avant la santé de nos concitoyens, je cite. Il prévient qu'il sera difficile de donner dans les prochaines semaines de la visibilité sur une réouverture, tout en réaffirmant son soutien au secteur, Benoît Grossin.
Sans réagir aussi vite que la rue de Valois, Jean Castex a publié à 20h36, exactement hier soir sur Twitter, cette lettre à ceux qui font vivre la culture, en assurant que l'État est au rendez-vous avec un engagement unique au monde, selon lui, d'un peu plus de 7 milliards d'euros d'aide depuis le début de la crise. Et en rappelant aussi ses très récents échanges avec les représentants du cinéma et du spectacle vivant, en compagnie de la ministre Roselyne Bachelot, sur la construction de ce qu'elle présente comme un modèle résilient. « Il nous semble possible, écrit Jean Castex, d'élaborer des scénarios permettant de définir pour les prochains mois les modalités d'ouverture graduées de vos structures en réponse aux propositions notamment du Syndéac, syndicat du secteur public du spectacle vivant que dirige Nicolas Dubourg. »
Depuis bientôt une dizaine de jours, les contacts se sont multipliés pour mettre en œuvre une procédure résiliente, c'est-à-dire une procédure qui soit capable de s'adapter à l'évolution de l'épidémie. Si l'épidémie augmente, eh bien évidemment, le protocole se durcit. Et si l'épidémie reflue, alors le protocole peut s'alléger. Nous, ce que nous demandons, c'est que dès la rentrée de janvier, que nous puissions, dans nos théâtres, réaccueillir les enfants pour des représentations scolaires. On a bien compris que les données sanitaires seront stabilisées aux alentours de la mi-janvier et que l'accueil du grand public sera probablement repoussé à la fin du mois de janvier, voire au-delà.
Face au manque de visibilité, la CGT Spectacle réclame, elle, la mise en place d'un plan de sauvegarde du secteur culturel et promet de nouvelles actions au mois de janvier, à l'image de la colère exprimée sur la place de la Bastille, notamment le 15 décembre dernier.
Et à lire sur notre site l'intégralité de cette lettre au monde de la culture, ainsi que le détail de la décision du Conseil d'État et les nombreuses réactions qui ont suivi. Rendez-vous donc sur franceculture.fr. Fin de la période d'isolement pour Emmanuel Macron. Le président de la République n'a plus de symptômes du Covid-19. Il peut retourner à l'Élysée. Le chef de l'État s'était isolé à la résidence officielle de la Lanterne à Versailles il y a une semaine. Midi, passé de 50 minutes, c'est la suite du journal sur France Culture. En ce réveillon de Noël, le ministre de l'Intérieur demande au préfet de renforcer aujourd'hui et demain la surveillance des lieux de culte et des offices. Le plan Vigipirate est toujours à son niveau maximal depuis l'attentat au sein de la basilique Notre-Dame de Nice fin octobre, Sarah Ders.
Des instructions pour éviter tout incident à quelques heures de Noël. Gérald Darmanin souhaite un dispositif de protection dissuasif et visible aux abords des lieux de culte en haute fréquentation comme chaque année pour les fêtes. Des policiers nationaux mais aussi municipaux, des gendarmes ainsi que des militaires de l'opération Sentinelle peuvent être mobilisés. À titre d'exemple, à Paris, 1400 policiers nationaux sont déployés aujourd'hui et demain. Pour rassurer les fidèles, le ministre invite les préfets à identifier les sites les plus sensibles. À titre d'illustration, en juillet 2017, l'Intérieur avait fait savoir qu'à cette date, 821 sites juifs et 1098 sites musulmans faisaient l'objet d'une surveillance accrue dans le cadre de patrouilles des forces de sécurité. Mais le ministère demande surtout à chaque préfet de connaître les lieux et horaires des cérémonies puisque cette année, Covid oblige, certaines paroisses ont décidé de démultiplier les messes ou de les dépayser exceptionnellement dans les salles polyvalentes. Depuis le 3 décembre dernier, la jauge de 30 personnes pour participer aux cérémonies des lieux de culte a été supprimée. Mais 2 sièges et 1 rangée sur 2 doivent rester libres.
À l'approche de Noël et de la cérémonie d'investiture, Donald Trump a dévoilé hier soir une liste d'une 30aine de pardons et autres mesures de clémence. Dernier geste controversé de la part d'un président des États-Unis qui se dirige vers la sortie et laissera dans un mois la Maison-Blanche à Joe Biden. Ces nouvelles grâces concerne entre autres des proches de Donald Trump, Loïc Loury.
Monsieur le Président, ma famille et moi vous remercions humblement pour cette grâce présidentielle. Les mots sont insuffisants pour exprimer toute notre reconnaissance. La déclaration est signée Paul Manafort, ex-directeur de campagne de Donald Trump. Comme l'ancien conseiller Roger Stone, lui aussi gracié, Manafort avait été mis en cause dans le cadre de l'enquête russe sur une possible collusion entre Moscou et l'équipe Trump. À 71 ans, il purgeait une peine de 7 ans et demi de prison et comme Roger Stone, c'était surtout un fidèle de Donald Trump. Encore une fois, le président est accusé de dévoyer ce droit de grâce. Le père de Jared Kushner, son gendre et conseiller condamné pour malversation fiscale, fait aussi partie des bénéficiaires, tout comme 4 ex-agents de la société de sécurité privée Blackwater, coupables du meurtre de civils irakiens en 2007. Mais les critiques n'arrêtent pas le président. Il envisagerait de se gracier lui-même des crimes en lien avec sa présidence, pour lesquels il pourrait être poursuivi à l'avenir.
C'est en Chine un symbole de la réussite du pays dans l'économie numérique. Le groupe Alibaba est dans le collimateur du régime communiste pour suspicion de pratiques monopolistiques. L'administration d'État pour la régulation des marchés vient d'ouvrir une enquête contre le groupe. Cette annonce a provoqué un plongeon des actions du champion du commerce en ligne. Il a perdu plus de 8% ce matin à la bourse de Hong Kong. À Pékin, la correspondance de Dominique André.
Alibaba, l'entreprise fondée en 1999 par Jack Ma, fait l'objet d'une enquête pour suspicion de pratiques monopolistiques. Dans un communiqué, les autorités chargées de la régulation du marché précisent qu'elles enquêtent sur des règles imposant aux commerçants de signer en exclusivité avec une plateforme, ce qui les empêche de proposer leurs produits ailleurs. Alibaba a promis de coopérer. Mais l'enquête ne s'arrête pas là. Elle concerne aussi l'une de ses filiales, Ant, dont l'entrée en bourse avait été suspendue début novembre. Le régime communiste s'inquiète en effet de la montée en puissance des grands groupes technologiques dans le secteur des prêts en ligne qui concurrencent les banques publiques. Jack Ma, l'une des personnalités les plus riches et exubérantes de Chine, a 56 ans. Il n'est plus aux manettes de son empire depuis 2013, mais reste influent. Alibaba revendique 750 millions de visiteurs par mois sur ses plateformes. Il est le moteur de l'économie numérique en Chine. La semaine dernière, dans une réunion, Xi Jinping a appelé à s'opposer fermement au monopole.
Dominique André, un réveillon pluvieux sur presque toute la France, sauf sur la côte méditerranéenne. Des éclaircies sont attendues en Bretagne dans la soirée. Météo France prévoit cet après-midi 7 degrés à Calais, 8 à Paris, 9 à Strasbourg, 10 à Bordeaux, 11 degrés à Lyon et jusqu'à 15 degrés à Ajaccio. C'est la fin de ce journal préparé avec Nicolas Paumet. Contre la...